le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault.
Sud Radio, il est 8h48, c'est l'heure des grands débats du matin avec nos éditorialistes Lydia Girous et Elisabeth Lévy.
Et oui, qui sont de retour avec nous, Elisabeth et Lydia. Et on va reparler déjà pour commencer de cette polémique à Sciences Po Grenoble. Alors, on va rappeler les faits. Donc, c'est un enseignant là-bas qui a été accusé d'islamophobie, qui a été suspendu par l'IEP, l'Institut d'études politiques Sciences Po Grenoble. Et là-dessus, on a c'est le président de région, Laurent Wauquiez, qui a décidé de suspendre ses financements à Sciences Po Grenoble. Lydia, on l'entendait tout à l'heure, Geoffroy Didier, député européen LR, qui disait être inquiet de l'imprégnation de la culture woke, finalement, dans nos universités. C'est quoi ce qui se passe ici, là, à Sciences Po Grenoble? C'est le meilleur exemple, justement, de cette imprégnation, de cette culture-là, dans nos universités?
On a effectivement Sciences Po Grenoble qui occupe un peu le devant de la scène, mais c'est pas le seul établissement dans le supérieur où il y a cette avancée de la culture woke, de la cancel culture, ou pour dire plutôt de l'islamo-gauchisme. Il y a eu plusieurs fois des mouvements avec des militants, des jeunes d'ailleurs, qui se mobilisent, qui dénoncent certaines islamophobies, des discriminations qu'ils imaginent, ce genre de choses. Mais là, c'est extrêmement grave. Finalement, c'est un enseignant qui subit la double peine, alors que son nom a été affiché, que sa vie a été mise en danger. Et bien voilà qu'il est sanctionné par la direction de cet établissement, un établissement qui est censé quand même former des esprits libres, garantir la liberté d'expression, l'esprit critique, et donc il est, je trouve que la réaction de Laurent Wauquiez, qu'il veut finalement à travers cette décision ne pas subventionner un établissement qui joue contre la République, est une bonne décision, et on devrait multiplier ce type d'action pour éviter l'avancée de ce wokisme au sein de nos établissements dans le supérieur. Je crois que la ministre de l'Enseignement supérieur avait lancé un audit par le CNRS, donc c'est un peu par le CNRS, c'est complètement contre-productif, je trouve, sur l'islamo-gauchisme, et ça a été vite étouffé. Mais il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire de doctorat si vous n'avez pas une certaine orientation sur les sujets. Il y a vraiment des difficultés importantes, mais je pense qu'Elisabeth complétera.
Je vous entends là, vous êtes en train de marmonner.
Oui, je crois qu'elle a envie d'intervenir.
Vous avez beaucoup de choses à dire.
Je
vous ai entendu, Elisabeth.
Je vois le temps filer, alors je voulais
rajouter quelque chose. On a le temps ce matin, Elisabeth, donc on en profite, bien sûr.
Je viens de lire le long entretien qu'avait donné la directrice de Sciences Po Grenoble à Marianne. Alors c'était avant la suspension du professeur, mais c'est quand même intéressant parce que d'abord je vous lis une phrase. La question c'est: Klaus Kinzler dit qu'il n'a jamais été mis en cause de cette manière-là par des étudiants, et voilà ce qu'elle répond: je pense qu'il faut tenir compte du changement générationnel à l'œuvre. Alors ça, je trouve ça assez inquiétant, parce que ça veut dire en gros il faut s'adapter aux étudiants et à ce qu'ils sont. Et ensuite elle parle, j'essaye de le retrouver en même temps que je vous parle, ensuite elle dit je déplore qu'on fasse souvent allusion de façon négative à l'émergence de nouvelles disciplines. On parle d'études de genre, de décolonialisme, en rejetant ces travaux comme non scientifiques. En tant que scientifique, je trouve ça curieux. S'est-on ému de la création de l'astrophysique? Alors,
s'intéresser peut-être à ces travaux, pourquoi pas? La question, c'est: est-ce qu'à un moment,
Le problème, si vous voulez, c'est que ces travaux sont quand même, la façon de... D'abord, il domine, mais surtout c'est la façon, excusez-moi, parce que alors peut-être qu'il y a on peut étudier la théorie du genre si on veut, mais la façon dont c'est étudié, pardonnez-moi, je ne suis pas sûr que ce soit très scientifique, parce que c'est souvent du gloubi-boulga idéologique avec l'écriture inclusive et tout le toutim, malgré son interdiction. Et donc je ne sais pas ce qu'elle dirait de cette suspension qui me semble tout de même assez grave. grave, parce qu'en fait, au lieu de sanctionner les élèves, au lieu de sanctionner les étudiants qui l'ont, comme l'a dit Lydia, mis en danger, eh bien on sanctionne le professeur. Je trouve ça tout de même assez grave. Et je constate, avant de relaisser la parole à Lydia, et de la féliciter au passage pour sa tribune de ce matin, je constate que dans les Sciences Po, en général, si vous voulez, et dans, souvent dans ce qui étaient les temples du savoir, l'école des hautes études, Normale Sup, donc, je veux dire, vraiment des écoles où on a formé les élites françaises, eh bien, cette idéologie woke est de plus en plus prégnante. Et ça pose quand même un problème. Vous vous rappelez, chère Lydia, que la ministre avait effectivement demandé au CNRS, qui était assez drôle, vu que le CNRS est lui-même assez gangrené par cette idéologie, mais que un mois, je pense, quelque chose comme ça, elle a dit « Ah bah finalement, c'est réglé ».
Oui, oui.
Vous vous rappelez ça?
Bien
elle
sûr,
a dit
ça
c'est
a été
réglé.
Vite enterré.
Ça, l'islamo-gauchisme, c'est bon, j'ai tout réglé, ça n'existe plus. Donc, si vous voulez, si on doit compter sur Madame Vidal pour lutter contre ça, on n'est pas rendu.
Non, en tout cas, Valérie Pécresse en appelle justement à la ministre, en l'occurrence, puisqu'elle demande, là encore, qu'il y ait une étude qui soit faite, une mission d'inspection sur la situation sur place, avec des conclusions qu'elle demande publiques, et sur rendues publiques. Là-dessus, en fait, finalement, c'est une demande, Lydia, importante, ou alors finalement, c'est circulé, il n'y a rien à voir, c'est juste une réaction comme ça, en mode, on attend.
C'est une réaction pour réagir et pour dire qu'elle est, elle est sur ces sujets-là. Souvent, quand on ne sait pas quoi faire, on demande un rapport, un audit, on met en place un comité pour réfléchir de manière subtile, évidemment, et on attend les conclusions. La réalité, c'est on sait ce qui se passe à Sciences Po Grenoble. Ça s'est passé dans d'autres IEP, à Lyon notamment, je crois, de mémoire, ou à Aix.
Ah bon ?
Il y a eu, pas à ce point-là, mais il y a eu de l'islamo-gauchisme. Il y avait eu des problèmes aussi liés au voile présent lors de certains cours et des professeurs qui avaient été mis en difficulté. Il y avait eu ça aussi à Paris 13, je me souviens, avec Samuel Mayol, le dirigeant de l'UT de Paris 13, qui avait été mis en difficulté et menacé de mort. Donc il y a cet entrisme, parfois même de l'islamo-gauchisme politique dans certains établissements, l'islamisme politique qui fait son entrisme, l'islamo-gauchisme, le wokisme, tout ça à mon sens, il y a quand même un lien. Donc on sait qu'il y a ces dérives, donc demander un rapport, pourquoi pas,
mais
je
ne
suis pas certaine
la chose,
que ça fera avancer le Schmilblick.
Elisabeth, alors vous avez entendu...
Un mot juste peut-être sur la question. Je suis frappée par le fait que la directrice de Sciences Po refuse tout à fait de condamner simplement le terme islamophobie. Alors je vous rappelle, un, que l'islamophobie est un terme qui a été introduit en France par les frères musulmans, par les Iraniens d'abord, par les frères musulmans ensuite, et que c'est un terme de guerre, que ça n'a effectivement, si vous voulez, je ne suis pas sûr qu'il y ait une validité scientifique de ce terme, et que par ailleurs, j'ajoute qu'en France, on a le droit de critiquer les religions, en conséquence, si on veut être islamophobe, c'est un droit. Je veux dire, il n'y a pas de délit d'islamophobie, contrairement à ce qu'a dit il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quel leader de gauche, ça n'existe pas malgré les tentatives répétées d'un certain nombre d'associations pour le faire entrer dans le code pénal.
On poursuit les débats dans un instant avec vous, bien sûr, Lydia Guirous et Elisabeth Lévy, et puis vous, au standard, vous nous appelez 0826 300 300. On va continuer, on va parler de Christiane Taubira, tenez, de la gauche dans tous ces états aussi. Lydia en parlait ce matin dans son édito politique, on verra ce qu'il en est avec Elisabeth, et puis on parlera aussi de la crise du Covid avec ces différents pays où on met en place déjà ce pass vaccinal. On verra comment c'est accepté ou non par les populations. En tout cas, restez bien avec nous sur Sud Radio.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault.
9h03 sur Sud Radio. Dans quelques instants, on va avoir un sujet très intéressant sur la 5G.
Selon tu vas faire débat,
oui. Oui, l'exposition aux ondes est à un niveau comparable avant et après la 5G. On recevra Gilles Bragand, directeur général de l'Agence Nationale des Fréquences, pour comprendre tout ça. Ça va être très intéressant.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a toujours 4G, eu beaucoup 5G, d'inquiétudes sur la
peur, oui.
5G, de peur. Alors, on verra. Lui veut nous rassurer à ce sujet. On verra ce qu'il en est. Mais pour l'heure, à 9h04, on poursuit nos débats, nos grands débats du matin avec Elisabeth Lévy, bien sûr, et Lydia Guirous qui sont toujours avec nous. Elisabeth Lévy, on parlait alors tout à l'heure de la polémique à Sciences Po Grenoble, de la question du wokisme. J'aimerais qu'on parle davantage maintenant de la gauche dans tous ces États, de Christiane Taubira qui était hier à Vierzon dans les pas du président de la République, qui était il y a quelques jours, pour parler notamment de la situation des soignants. On n'a pas l'impression que ça prime beaucoup, hein, finalement, son début de... Alors, on ne peut pas vraiment dire campagne présidentielle, parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, son début de quelque chose, là, c'est un peu difficile de voir si ça imprime ou pas. Hein.
C'est à moi que vous posez la question. Ouais, écoutez, Lydia a un peu tout dit ce matin, alors je suis un peu empruntée. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit sur ce que vous avez dit, chère Lydia, sur Christiane Taubira en parlant d'une adoration mystique. C'est vraiment... non, mais je crois que elle a résumé la chose. La gauche ayant perdu le peuple, ou l'ayant plus exactement congédié au profit des minorités. Je ne sais plus de quand date cette note, Lydia, de... Terra Nova, mais ouais, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années, je dirais.
Ça date il y a quelques temps déjà, ouais.
C'était avant François Hollande.
Et dans le fond, si vous voulez, on n'est pas sorti de cette logique-là, c'est-à-dire que ils ont abandonné les classes populaires à l'extrême droite, enfin à l'extrême droite, au Rassemblement National, j'aime pas employer le terme extrême droite qui est là pour disqualifier, et qui me semble plus correspondre à la situation, mais en tous les cas, ils les ont abandonnés d'abord au Front National, puis aujourd'hui au Rassemblement National, parce que vous comprenez, ces gens-là ne sont pas assez ouverts, pas assez woke, pas assez éveillés, etc., etc., et moi, je suis toujours frappé, si vous voulez, par le fait que dans la décennie 90 et puis 2000, toutes les grandes villes de France, c'est-à-dire quand même les endroits les plus riches, les plus prospères, ont été conquis par la gauche. Ça doit vouloir dire quelque chose, si vous voulez. La seule grande ville qui n'était pas gérée par la gauche, il y a peu, c'était Marseille, qui est une ville assez populaire. Donc, voilà, je veux dire, et quand vous voyez, si vous voulez, les débats, enfin, si vous voulez, il n'y a toujours aucune espèce de réflexion sur pourquoi ils ont perdu, pourquoi Hamon a fait X%, combien, je ne sais plus, mais enfin, c'était pas terrible. Voilà.
Alors, est-ce que Christiane Taubira va renforcer, justement, selon vous, cette logique-là?
Demandons à Lydia ce qu'elle va nous dire.
Je pense que...
C'est la spécialiste de Taubira.
Pas vraiment. Non, mais Christiane Taubira...
De Sam Taubira.
Sam Taubira, non, j'y crois pas une seconde. Je pense qu'il y a une minorité qui rêve de la voir revenir parce qu'ils adorent la voir déclamer des vers de poésie. Mais en fait, il n'y a rien derrière. Christiane Taubira, c'est beaucoup de morale, c'est beaucoup de pensée. Et puis en dehors du mariage,
c'est le wokisme chic quand même.
Oui, c'est ça, c'est le wokisme chic, ça fait plaisir. Et puis en dehors du mariage pour tous, il faut quand même se rappeler que Christiane Taubira, elle était indépendantiste et elle a eu quand même des déclarations sur la vaccination qui étaient un peu douteuses. Je trouve que
elle est revenue dessus, je crois.
Oui, elle est revenue dessus
parce elle est complètement
revenue
dessus pour le coup.
Elle a besoin de gommer ça, de solder ça avant de se lancer dans une potentielle candidature à l'élection présidentielle. C'est quand même Christiane Taubira qui a dit qu'Assa Traoré était une chance pour la France, que la famille Traoré est une chance pour la France. Moi, je trouve que c'est plutôt des boulets pour la France. Donc, Christiane Taubira, une fois qu'on est sorti d'une adoration un peu béate, on voit que c'est juste celle qui peut emmener la gauche vers le mur en accélérant. C'est à mon avis,
déjà,
une
hein.
erreur de casting. Et puis, pourquoi Jadot s'effacerait? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon s'effacerait? Et qu'est-ce qu'elle propose? À part de belles phrases, et puis j'ai vu sa visite, j'ai commenté en direct sa visite à Vierzon.
Elle a parlé des soignants, il y avait un côté un peu social en tout cas, il y avait une volonté, on va dire, de démarche un peu sociale.
C'est pas vraiment un casting, parce qu'un casting, il y a quelqu'un qui choisit, si vous voulez. Alors que là, elle s'est autoproclamée, pensant sans doute que tout le monde allait se prosterner en disant ça y est, Taubira va nous sauver. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, parce que ça veut dire que vraiment ces gens sont complètement hors sol, ils vivent au milieu d'un petit groupe d'adorateurs, d'admirateurs, et donc vous voulez, ils voient pas le reste, mais c'est ce, ouais.
C'est les
sidérant.
Mêmes qui parlent sans arrêt d'une société qui serait trop clivée, de trop de radicalité, d'un côté de l'échiquier politique, qui vont nous apporter la personne qui va apporter le plus de radicalité, qui va générer encore plus de clivage, encore plus de crispation. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure candidate.
Pas encore plus de voix, à mon avis.
Bon, alors, en tout cas, pas beaucoup
pas
plus de voix.
Pas encore plus de voix.
Bon, en tout cas, je note, Elisabeth Lévy, Lydia Guérousse, vous ne voterez pas pour Christiane Taubira si elle se présente en avril prochain. Non. Bon, voilà, voilà qui est dit. Je voudrais qu'on parle aussi de la crise du Covid, avec notamment pas mal de choses dans l'actualité, avec ce pass vaccinal notamment, voilà, qui va être débattu à partir de janvier au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Le pass sanitaire aussi au travail, ça fait beaucoup réagir. Alors, en concernant le pass vaccinal, j'aimerais qu'on voit un petit peu comment ça se passe ailleurs, parce que certains pays où c'est déjà en place, eh bien, ce pass vaccinal, et on prend la direction notamment, eh bien, de la Grèce, avec Martial, l'éditeur de Sud Radio, qui est avec nous, qui habite en Crète. Bonjour,
en Crète,
Martial.
Oui, bonjour, Martial.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour, Sud Radio.
Et bienvenue,
bonjour.
Sur Sud Radio.
Merci.
Alors,
d'être bonjour.
Avec nous, pour nous
bonjour.
Expliquer.
Alors, je voulais en profiter pendant que j'ai la parole.
Oui.
Pour remercier Elisabeth Lévy pour ses chroniques. Ces analyses politiques, et vraiment, tous les matins, j'attends ça avec impatience parce qu'elle est vraiment
merci
dans
Martial.
Le. Elle est vraiment dans le juste, et, vraiment, et ça me réconcilie avec le journalisme.
Bon,
voilà.
Vraiment.
Bien
fait
venir,
une déclaration.
Hein. Quelle belle journée qui commence,
une déclaration d'amour. Et un petit mot pour Lydia Guérousse aussi.
Et
hein.
Je dis à Lydia, voilà. À Lydia aussi, que je commence à écouter aussi, qu'elle continue, c'est très bien aussi.
Très gentil.
Bon, Martial, on va se concentrer un petit peu sur ce qui se passe en Grèce, puisque oui. Le pass vaccinal est déjà en place, je le disais. Depuis combien de temps? Et attention, parce que c'est il y a pass sanitaire dans certains lieux et pass vaccinal dans d'autres, c'est ça, hein, si j'ai bien compris.
En fait, le pass, ils l'ont mis en place depuis début novembre. Début novembre.
D'accord. Le pass vaccinal, alors pour bien comprendre, parce qu'il faut qu'on s'y retrouve aussi, parce que c'est vrai qu'on a besoin de clarté entre le pass sanitaire d'un côté et le pass vaccinal de l'autre. C'est-à-dire qu'en novembre, ce dont vous parlez, c'est le pass vaccinal, c'est ça?
Le pass vaccinal, c'est-à-dire, vous voulez dire
c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en gros, pour aller dans certains endroits, il faut être vacciné, un test ne suffit plus, c'est ça?
Ah non. À partir de novembre, c'était il fallait aller pour certains dans certains endroits, il fallait avoir un test, mais c'est tout. Mais on vous obligeait pas à être vacciné. Par contre, à partir de janvier.
D'accord.
On va vous obliger à être vacciné. Et pour les plus de 60 ans qui ne seront pas vaccinés, ça sera 100 euros d'amende par mois.
Ah oui, d'accord.
100 par mois.
Et alors comment on réagit globalement en Grèce?
Ben, honnêtement, les gens réagissent pas trop mal. Ils sont pas très... Non. Il faut savoir... Par contre, il faut savoir qu'en Grèce, il n'y a pas des moyens hospitaliers comme chez nous. Donc les gens ont très peur de l'épidémie, donc ils se plient à pas mal de choses en fait.
Donc c'est plutôt bien toléré, et pour vous, vous le prenez comment en tant que Français, voilà. Là en Crète?
Moi personnellement, j'apprécie pas tellement quoi, parce que...
Ouais.
On avait une certaine
parce que vous êtes français. Et...
Ouais, français
c'est ça, exactement.
Comme disent les Grecs, je suis gaulois, ouais.
C'est ça.
Un gaulois vacciné.
Ils ont un peu juste, clairement.
Voilà.
Ouais.
Voilà.
Non, ça vous embête un petit peu, quoi.
Et est-ce qu'il y a des touristes, en fait?
Comment?
Non, je me demandais s'il y avait des touristes ou si ça avait complètement aussi plombé le tourisme en Grèce et en Crète.
Oh non, il y a beaucoup de touristes, non.
Ça n'a pas plombé.
Ça n'a pas plombé, non.
Là, j'ai l'impression que Lydia et Elisabeth, elles sont intéressées pour prendre des vacances en Grèce.
On est sur un mode vacances, là.
Merci.
Il n'y a pas de problème.
Merci en tout cas,
Martial.
Je vous envoie Elisabeth et Lydia, bien sûr. Merci à vous de nous avoir appelés.
Merci beaucoup.
0826-300-300 sur Sud Radio.
Bonne journée à vous et merci Sud Radio.
Et puis bonne fête à vous. Et puis merci également Lydia Guérousse. Merci à vous aussi, Elisabeth Lévy, d'avoir d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très bonne journée.
Bonne journée.
Merci.
Et à très vite.
Merci Benjamin.
Allez, 9h13 sur Sud Radio. Bah voilà, on parlait de départ en vacances.
Ah
de, voilà,
oui.
Bah on va parler de cadeaux là.
Mais je crois que c'est Noël qui approche, bah, hein, oui. Benjamin. Et on a un gagnant pour le. Mais oui, on a une gagnante même. C'est Cynthia de Narbonne.
Bonjour Cynthia.
Bonjour Cynthia.
Et bravo.
Bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour tout le monde.
Bravo. Ah bah ça, du sourire dans la voix, ça fait plaisir. Bravo. Alors, à vous en tout cas.
Vous allez gagner un cadeau et on va le découvrir ensemble, ce que vous avez gagné au pied du sapin de Noël, Sud Radio.
Joyeux Noël. Voici votre cadeau Sud Radio.
Cynthia, vous avez gagné un pass Fly Zone pour des simulations de chute libre dans le seul simulateur du Sud-Ouest à Lézignan. Et le pass comprend 10 sauts à partager en famille ou entre amis. Vous avez toutes les infos sur flyzone.fr. C'est pas génial, ça ?
Sensation forte, là. Hein.
En plus, ça tombe super bien parce que c'est quelque chose que je voulais essayer depuis très longtemps.
Ah bah voilà.
Donc,
bah maintenant,
c'est un super cadeau pour Noël. Je vous remercie beaucoup.
Ça vous fait pas peur, en tout cas.
Non, pas du tout, au contraire, vous voyez, on aime bien les sensations fortes et tout, donc on avait vraiment envie de le faire.
Bah sinon, vous faites 10, mais rien que pour vous. Partagez pas, gardez-les, franchement.
Je crois que je vais partager quand même, c'est Noël.
Vous avez bien raison.
Très gentil, vous avez raison.
En famille.
Bravo, en tout cas, de vous faire plaisir. Très bonne fête à vous.
Très bonne fête,
passez
un joyeux Noël. Oui.
Joyeux Noël, bonne fête.
Bonne fête.
Allez, 9h15 sur Sud Radio. Bah oui, ça fait plaisir de vous offrir des cadeaux tous les jours, tous les matins. Effectivement, bien sûr. Allez, dans un instant, eh bien, nouveau débat. On va reprendre notre sérieux, bien sûr, pour un sujet qui fait polémique. Qui fait polémique, mais alors peut-être un nouvel élément, justement, pour se faire une opinion sur les effets de la 5G avec cette nouvelle étude qui vient de sortir. On vous explique tout dans un instant avec notre grand invité du grand débat du grand matin de Sud Radio.
A tout de suite, 9h15 sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Marilyn Hérault.
9h18 sur Sud Radio, vous êtes bien dans le Grand Matin. On vous accueille avec plaisir pour la suite de nos grands débats du matin pour parler de la 5G. Selon une étude demandée par le gouvernement, l'exposition aux ondes est à un niveau comparable avant et après la 5G. Notre invité pour détailler tout ça, c'est Gilles Brégand, directeur général de l'Agence Nationale des Fréquences, l'ANFR. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Gilles Brégand, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Alors on va revenir bien entendu sur les résultats de cette étude, mais d'abord, bah, ça fait un an maintenant que la 5G a été officiellement activée en France, même si ça concerne encore qu'une minorité de personnes, il faut le dire. Pourquoi une telle étude aujourd'hui alors que cette 5G a été déjà lancée? L'idée c'était de mesurer un petit peu l'avant-l'après sur ces premiers mois, sur ces tout premiers mois?
Oui, exactement, parce que pour pouvoir mesurer avant-après, il faut que la 5G soit déployée. Et la 5G, elle a un avantage particulier que n'avait pas la 4G, c'est que dans ces nouvelles fréquences, elle ne fonctionne que si l'on s'en sert. Donc en réalité, ce sont les téléphones 5G qui déclenchent les antennes 5G. Alors il fallait attendre qu'il y ait des antennes 5G et des téléphones 5G. Donc c'est pour ça que nous avons mesuré 1500 relais avant et après.
Alors c'est peut-être une question un peu naïve, mais ça veut dire qu'à titre expérimental, en amont, on ne pouvait pas faire de tests pour savoir un petit peu ces effets-là avant de le déploiement ou l'officialisation justement du déploiement de la 5G.
Ah si, bien sûr, l'Agence des fréquences a fait des tests prolongés sur la 5G pendant plusieurs mois, puisque nous avons commencé dès 2019 et même avant à faire des essais, puisque les opérateurs ont eu l'autorisation de mettre en service des relais pour vérifier le fonctionnement. Et nous avons mesuré l'exposition, affiné nos méthodes, et donc nous savions ce que nous allions trouver. Mais là, ce qu'on a fait pour la première fois, ce n'est plus du qualitatif, c'est du quantitatif. On l'a fait sur 1500 sites dans toute la France. Parce qu'aujourd'hui, finalement, la moitié des sites de 4G sont capables de faire de la 5G. Donc, on a vraiment le volume maintenant et on peut avoir quelque chose de statistique.
1500 sites, du coup, où il y a ces études-là, où on calcule. Comment, alors peut-être sans rentrer dans les détails un peu techniques, mais comment on procède exactement pour faire cette étude, pour mesurer ces impacts-là de la 5G?
C'est très simple. En réalité, ce que fait l'Agence des fréquences, c'est qu'elle va mesurer l'exposition. Ce n'est pas nous qui nous occupons des sujets sanitaires. C'est nos collègues de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, qui va interpréter ces résultats, qui fait des rapports d'ailleurs sur le sujet. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous mesurons. Donc en fait, on va simplement aller près d'un relais qui va être autorisé en 5G, qui n'a pas encore la 5G. On va mesurer l'exposition ambiante autour du relais et ensuite, on revient plus tard, quand la 5G est activée, et cette fois-ci, on va mesurer ce qui a changé en réalité. Mmh.
Justement, ce qui a changé, alors, ce que révèle cette étude, hein, c'est, votre étude, c'est que finalement, bah, ces peu de choses ont changé entre l'avant et l'après 5G, c'est ça en fait?
Oui, c'est un peu ça. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Vous savez, la 5G, c'est un peu comme une rame de TGV. Ça peut rouler sur des voies spéciales à grande vitesse, mais ça peut aussi rouler sur n'importe quelle voie de chemin de fer, comme un intercité. Donc, quand vous mettez de la 5G sur une fréquence de 4G, en fait, ça n'expose pas plus que la 4G. C'est normal. C'est un peu comme le TGV qui ne va pas plus vite qu'un train normal. Mais quand vous allez sur la voie spécialisée, alors là, c'est plus efficace, c'est plus rapide, il y a plus de débit. Mais l'autre avantage, c'est que quand il n'y a pas de téléphone 5G, ben, l'antenne 5G cesse d'exposer. Mmh. Donc on va mesurer ça. On va mesurer la 5G sur les voies normales et la 5G sur les fréquences spéciales 5G. C'est ce qu'on a fait sur 1500 sites.
Et donc, peu de changements là-dessus. Sauf que c'est vrai que peu de personnes ont la 5G ou utilisent cette 5G. Ça veut dire aussi que peut-être ça va évoluer sur ses effets au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que, est-ce que déjà ça va changer? Est-ce que vous allez faire d'autres études ensuite?
Oui, tout à fait. C'est bien pour cela d'ailleurs qu'on a prévu de faire plusieurs fois la mesure sur ces 1500 sites. Là, c'est la première version du rapport. On a fait une mesure avant, une mesure après. Mais en début d'année prochaine, tous les 1500 sites auront été mesurés 4 mois plus tard pour une nouvelle mesure après, et ainsi de suite. Donc, en fait, on va mesurer l'évolution de l'exposition qui est due à la 5G. Mais on a fait aussi des simulations avant de faire ces tests, et donc on s'attend à ce que l'exposition de la 5G augmente d'environ 20% l'exposition actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, si on a 1 vol par mètre, on aura 1,2 vol par mètre. Pour l'instant, on a 1,06 vol par mètre.
Gilles Brégand, je rappelle, hein, pour nos éditeurs de Sud Radio, vous êtes directeur général de l'Agence nationale des fréquences. On en est où actuellement de la couverture de la 5G en France et du nombre de Français qui l'utilisent, eh bien, cette 5G?
L'Agence des fréquences n'est pas la plus à même de vous répondre, puisque c'est le régulateur, l'ARCEP, qui va suivre ces éléments à partir des informations que lui transmettent les opérateurs mobiles. Par contre, nous, ce que nous pouvons dire, ce qu'on autorise tous les émetteurs 5G, c'est qu'aujourd'hui, environ la moitié des émetteurs de téléphonie mobile en France ont une capacité 5G, soit sur les fréquences de la 4G, soit sur des fréquences dédiées à la 5G. Donc, aujourd'hui, la 5G, elle est présente dans les villes, mais aussi dans les campagnes, sur à peu près la moitié des émetteurs. Si vous avez un téléphone 5G, vous allez avoir assez souvent le petit logo 5G qui s'allume.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on peut voir sur son téléphone, avec encore pas mal de zones blanches quand même. On en est finalement au tout début quand même, il faut le dire, de ce déploiement.
C'est-à-dire qu'en fait, la 5G, elle se déploie selon les recommandations du régulateur, c'est-à-dire qu'elle va se déployer à la fois en ville et à la campagne. Mais évidemment, les opérateurs ont surtout besoin de la 5G en ville, parce que la 5G va délester le trafic. Elle va permettre d'avoir du débit là où c'était saturé en réalité. Donc, on trouve dans les grandes villes beaucoup de 5G. Et d'ailleurs, c'est assez pratique parce que ça permet d'avoir beaucoup plus facilement accès à ces pages web dans le métro, par exemple.
Bien sûr.
Alors, métro aérien, métro aérien.
Oui, tout à fait. Gilles Brégand, alors il faut le dire, la 5G a fait et continue de faire l'objet de beaucoup de fantasmes et d'inquiétudes importantes de la part d'une partie de la population. Notamment, on le voit, on ne compte plus le nombre d'antennes 5G victimes de vandalisme. Comment vous expliquez cette défiance? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y avait déjà cette même méfiance, inquiétude autour de la 4G auparavant?
Oui, autour de la 4G, on a eu aussi beaucoup de manifestations d'inquiétude au moment où la 4G est arrivée. Alors, c'est un phénomène qui se produit finalement avec régularité tous les 10 ans. La 5G, ça a été amplifié parce que grâce à la 4G, justement, on avait les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de caisses de résonance. Et comme le lancement de la 5G aux États-Unis s'est fait de manière un peu chaotique, finalement, la controverse a franchi l'Atlantique. Alors que les Européens sont beaucoup plus organisés et ont déployé la 5G de manière beaucoup plus contrôler. Donc, on a finalement hérité d'une controverse qui était déjà passée en grande partie, qui était les petites péripéties du lancement de la 5G sous Donald Trump. Aujourd'hui, en France, c'est très contrôlé et finalement, c'est une 4G améliorée qui continuera à s'améliorer. Chaque fois qu'il y a une nouvelle génération, on a des ouvriers de la 11e heure qui arrivent, qui savent tout sur tout et qui vous expliquent des folies. Donc, on les regarde avec beaucoup de stupéfaction dans les services comme l'Agence des fréquences. Nous connaissons la 5G depuis déjà presque 10 ans. Et on avait l'impression qu'on on n'étudiait pas la même chose, en fait.
Il y a eu plein de théories, et on pense notamment à celle qui s'est le plus développée. Alors, elle a lié les vaccins et la 5G. Voilà, c'est plus 5G qu'on nous injecterait, finalement, dans le corps. Quand vous avez entendu ces théories-là, comment vous avez réagi? Est-ce que c'est important d'y répondre, justement? Parce que ça témoigne aussi peut-être d'inquiétude, toute simple, à ce sujet.
C'est-à-dire qu'en fait, quand on a entendu ça, on était incrédule. En fait, vous savez, il y a une règle de base dans les fréquences. Hein. Vous connaissez bien, puisque la FM, c'est aussi des fréquences. Si vous voulez capter une fréquence, il faut une antenne qui a une longueur qui dépend de la fréquence utilisée. Vous savez, à une époque, la FM, pour la capter, il fallait une antenne sur les voitures qui mesurait presque un mètre. Aujourd'hui, elle est dans le pare-brise. Ça ne se voit pas, mais elle est toujours là. Si vous voulez capter la télé, vous avez une antenne qui mesure quelques dizaines de centimètres. Dans votre téléphone, l'antenne, elle est aussi large que votre téléphone. Elle fait 5 cm à peu près. Pour capter la 5G, même avec ces fameuses ondes millimétriques qu'on a souvent citées, il faut une antenne qui ait de la taille, disons, d'une pièce de 1 centime d'euro. Donc, en fait, un vaccin avec de la 5G dedans, ce n'est pas un vaccin, c'est un piercing.
Ouais. On le verrait.
Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est absurde, c'est absurde.
Bien sûr. Alors, on n'en a pas parlé, mais alors peut-être que ça concerne moins aussi, ça vous concerne moins directement à l'Agence nationale des fréquences, mais en tout cas sur ceux qui sont électrosensibles, qui disent justement être victime d'une certaine façon de ces ondes, qui sont partout aujourd'hui, que ce soit en ville ou à la campagne. Quand vous entendez justement ces témoignages, on en entend plein des personnes qui sont sensibles à ces ondes. C'est quelque chose qu'on peut comprendre, que vous comprenez?
Nos collègues de l'ANSES ont fait un excellent rapport sur l'électro-hypersensibilité il y a quelques années. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que les personnes qui sont électrosensibles souffrent, et donc il faut avoir de l'attention pour cette affection. En revanche, ce que le rapport indique, c'est qu'ils n'ont pas mis en évidence de lien entre les ondes et cette souffrance. Donc, en fait, il y a des symptômes, mais le lien entre les ondes et ces symptômes n'est pas avéré. Après, avec la 5G, on a quand même un avantage, puisque finalement, comme je le disais, la 5G ne fonctionne que si l'on s'en sert. C'est un peu comme ces réverbères dans les villages français qu'on éteint la nuit pour mieux voir les étoiles. Si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas de téléphone 5G avec une antenne 5G, ben finalement, il ne vous expose pas. Donc, c'est plutôt un progrès.
Ça, c'est une évolution. En tout cas, c'est un changement avec la 5G. Alors, on parle de 5G, mais on parle déjà aussi de 6G. Alors, dans certains pays, notamment, est-ce que ça va... Dans quel pays c'est déjà alors, si ce n'est en place, en tout cas à l'étude et un stade avancé? Et quand est-ce que ça pourrait arriver en France?
En réalité, chaque fois qu'on lance commercialement une G, la 5G aujourd'hui, aussitôt, les spécialistes, les chercheurs commencent la suivante. Donc, dès que la 5G est devenue célèbre dans les médias, aussitôt, il y avait des chercheurs, l'Agence des fréquences aussi, s'intéresse maintenant à la 6G. Parce qu'en fait, pour pouvoir lancer une nouvelle G, il faut pratiquement 10 ans d'études. La 6G, ça sera après 2030. Donc aujourd'hui, effectivement, on travaille à trouver des fréquences pour la 6G. Il y a des tas de chercheurs dans le monde qui sont en train de chercher comment coder, comment économiser l'énergie, comment optimiser les batteries, tout ça, sur la 6G. Mais la 6G, c'est une affaire qui nous occupera dans quelques années.
Donc aujourd'hui, ça veut dire que vous n'êtes pas encore au stade des études vous concernant, votre agence?
Si, on a commencé à chercher des fréquences pour la 6G. Mais ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est que la 5G, elle n'est pas livrée comme ça, au pied du sapin, pour toutes, en 2021. La 5G, entre aujourd'hui et 2030, elle va connaître à peu près 8 versions successives. Et donc, la 5G de 2029, elle sera très différente de celle d'aujourd'hui. Elle sera plus performante. Aujourd'hui, on a une 5G qui ressemble un peu à de la 4G améliorée. D'ailleurs, souvent, la 5G, aujourd'hui, ne marche qu'avec la 4G en parallèle. La 4G lui sert de béquille.
Bien sûr. Gilles Brégand, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour toutes ces explications. Je rappelle, vous êtes directeur général de l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR. Merci à vous, très bonne journée.
Merci, bonne journée.
Merci à vous, bonne journée à vous aussi.
Allez, 9h30 sur Sud Radio dans quelques instants, tout petit instant. Eh bien, on va retrouver Félix Mathieu et puis notre invité du jour pour les événements qui ont marqué l'année 2021. On va regarder du côté des étoiles, ça va nous faire rêver.
On va regarder tout là-haut. Et après, on recevra le chef Atrazik, chef au restaurant à Aumont-Aubrac, une étoile au guide Michelin. Et vous pourrez même gagner un cadeau grâce à ce chef et Sud Radio.
Et à tout de suite sur Sud Radio.